affinités électives. Une émission proposée par Canal Académie.
Chers amis, bonjour, vous êtes bien à l'écoute de Canal Académie, merci de votre fidélité. Comme moi et de nombre de nos invités ou auditeurs, vous pensez certainement que nous vivons dans une société désormais apaisée et qui a réussi à se débarrasser des nombreuses expériences idéologiques du passé que l'on regroupait sur le terme de totalitarisme. Nous sommes effectivement convaincus de vivre dans un instant historique et géographique dédié au bien, à la bienséance et à un grand nombre de valeurs tournées vers cet apaisement et le bonheur humain. Peut-être cette certitude doit-elle être relativisée, peut-être faut-il à nouveau porter un regard critique, non seulement sur les autres aires géographiques où nous avons tendance à voir des régimes ou des idéologies ou des religions tenantes du mal, et tourner ce regard critique vers nous-mêmes pour nous prémunir des éventuelles dérives qui nous menacent encore et toujours, non pas sous des formes habituelles, mais sous des formes plus pernicieuses, plus masquées, plus sournoises et donc dangereuses. C'est en tout cas la thèse défendue dans un récent ouvrage par Chantal Delsol. Cet ouvrage est titré « La haine du monde, totalitarisme et postmodernité ». Un sous-titre qui nous interroge, Chantal Delsol, car on avait l'habitude de penser que la postmodernité, c'était justement la sortie de l'âge des totalitarismes. Est-ce bien cela? Mais je vous présente d'abord, Chantal Delsol, vous êtes membre de l'Académie des sciences morales et politiques, et cet ouvrage, si dérangeant soit-il, n'est pas totalement une surprise, car vous avez consacré, durant de longues années, votre œuvre à une réflexion sur la place de l'homme, de l'humanisme, et la nécessité de maintenir une anthropologie dans un monde qui a tendance parfois à s'en éloigner.
Oui, bonjour. Merci de m'accueillir ici. Quand je parle de totalitarisme ici, je ne dis pas que nous vivons dans un nouveau totalitarisme. Il y a certaines personnes qui le disent, il y a des courants, il y a quelques courants assez minoritaires qui le disent, mais ce n'est pas mon point de vue. Je ne pense pas que nous soyons, que notre organisation politique, système politique soit totalitaire. Je pense qu'il faut utiliser les mots vraiment de façon très précise, surtout pour un mot comme ça. À mon avis, ça serait irrespectueux vis-à-vis des gens qui ont vécu vraiment dans des totalitarismes terroristes, comme le nazisme ou le communisme, de s'identifier à cela. En revanche, ce que je dis, c'est que notre époque, en Occident en tout cas, a tendance à poursuivre les buts que se proposait le totalitarisme, et cela avec d'autres moyens. Et le totalitarisme utilisait la terreur pour parvenir à ses buts, et c'est pour ça qu'il faut infiniment respecter les gens qui ont vécu dans la terreur et qui se sont révoltés contre ces systèmes. Mais nous utilisons pour le même but, ou pour des buts analogues, c'est justement ça l'objet de mon livre, d'autres moyens, et le moyen essentiel étant pour moi, à mon avis, la dérision.
Alors si le totalitarisme ne se définit pas par la terreur, c'est aussi ce que vous expliquez, le totalitarisme du passé était terroriste,
oui.
Mais ils ne se définissent pas seulement par la terreur.
Pas seulement, oui, voilà.
Tant et si bien que ce qui peut les définir plus profondément peut se retrouver dans nos sociétés.
C'est ça.
Le projet, en quelque sorte.
Bon, cela dit, je pense que la terreur était quand même incluse dans la définition, d'une certaine manière. C'est pourquoi je ne veux pas utiliser le mot totalitarisme pour définir notre époque. Parce que la terreur faisait quand même partie de la définition, aussi.
Mais c'était un moyen et pas une fin.
C'était un moyen et pas une fin. Je pense que ça n'a jamais été une fin, ni pour l'un ni pour l'autre des deux totalitarismes, parce qu'il y en a quand même essentiellement, il y en a deux, et je pense qu'on ne peut pas utiliser le mot totalitarisme pour Mussolini, alors que pourtant c'est lui qui s'est dit totalitaire. Vous voyez, donc les choses sont complexes. Mais donc, je parle des finalités ici. Je pense que nous avons des finalités analogues. Nous poursuivons la finalité que le totalitarisme n'a pas pu, finalement, n'a pas pu réaliser, parce que la terreur, au fond, n'a pas marché.
Alors, la question, évidemment, Quelle est cette finalité? Alors, quel est ce projet?
Quel est ce projet? Eh bien, ce projet, c'est l'émancipation humaine dans le cadre des Lumières, mais d'une façon absolument radicale. Au fond, c'est la radicalité de l'émancipation des Lumières. Et je pense que nous sommes encore, d'une certaine manière, là-dedans. Donc, non pas les Lumières, parce qu'il y a toutes sortes de Lumières, mais la radicalisation. L'excès, une sorte de développement, comme si c'était l'apprenti sorcier au fond.
Donc ce sont des idées progressistes devenues folles, pour faire une analogie.
Voilà, avec ce que disait Chesterton, oui. Des idées progressistes devenues folles, c'est-à-dire qu'au lieu de caresser l'espoir d'une émancipation qui, au fond, a toujours existé dans notre histoire, et qui, encore plus depuis le XVIIIe siècle, au lieu de faire seulement ça, promettent un nouvel homme. Les deux totalitarismes promettaient un nouvel homme, chacun à sa manière, et nous en sommes encore là. Nous promettons un nouvel homme.
Alors, ce qui est curieux et un petit peu dérangeant, c'est que cette idée d'émancipation, on ne la relie pas nécessairement très facilement à ces deux totalitarismes, dans la mesure où l'un et l'autre valorisaient quand même, chacune dans leur style, une idée de communauté extrêmement forte et contraignante. Comment...
Non, pas le communisme. Le communisme réclamait déjà une forme d'individualisme. Enfin, je peux trouver la communauté dans le communisme. Bien sûr, le mot communisme lui-même.
Ça réclame au moins une certaine obéissance, au moins au parti.
Ah ben oui, mais la communauté, vous pouvez obéir à un État. Alors, les communistes disaient qu'ils supprimeraient l'État, donc ça complique encore les affaires. Mais je ne sais pas si c'est la communauté qui est l'essentiel ici. L'essentiel, au départ, dans le communisme, le nazisme, c'est plus complexe, parce que c'est un retour à un État hanté, mythifié. Donc... C'est encore plus compliqué. Mais dans le communisme, vous avez effectivement une volonté de refaire l'humanité. Et ça, c'est très clairement dit. Bien, aujourd'hui, nous avons encore cette volonté de refaire l'humanité, c'est-à-dire à la fois de le débarrasser du tragique, de débarrasser l'humanité, de la débarrasser du tragique, et puis de la refaire plus belle, immortelle, etc.
Alors, au départ, ce sont des projets qui s'inscrivent contre. Alors, quels sont les ennemis pour ces totalitarismes, et quels sont les ennemis d'aujourd'hui dans ce projet? Quels sont les obstacles? Parce que j'imagine qu'un tel projet rencontre nécessairement des obstacles, peut-être le réel, tout simplement, d'ailleurs.
Oui, pour moi, c'est le premier obstacle, c'est la réalité. Mais ce sont des gens qui pensent que la réalité peut être changée entièrement. C'est là que je m'inscris en faux. On peut dire la réalité d'une manière générale, mais c'est au fond essentiellement la finitude humaine. Le fait que nous soyons des êtres finis, à savoir finis dans le temps, c'est-à-dire des êtres mortels, et puis imparfaits, finis dans le déploiement. Dans le déploiement en personne, nous sommes des êtres imparfaits. Donc il s'agit ici de s'attaquer à cette finitude, de la récuser. Finitude que j'appelle moi la réalité. C'est pourquoi j'ai appelé ça la haine du monde, parce que c'est au fond la récusation violente, assez perfide, méchante, d'un monde dans lequel nous vivons depuis toujours, dans lequel nous avons toujours vécu. Nous n'avons jamais quitté ce monde. Les communistes ont essayé de faire croire que nous étions en train de le quitter, mais au fond, on retombe brutalement dedans dès qu'on essaie de s'élever un peu trop. Pour l'instant, nous n'avons jamais quitté ce monde. Il s'agit encore de chercher à le quitter, ce monde de finitude, au fond.
Il y a un mot qui revient assez souvent... tout à fait comme synonyme d'émancipation, mais qui lui est forcément lié, c'est la volonté de désaffiliation. Comment la caractérisez-vous aujourd'hui, cette désaffiliation?
Oui, c'est-à-dire la volonté de sortir des nécessités qui sont les nôtres, De cesser de penser que nous sommes effectivement affiliés, que nous sommes caractérisés, on pourrait aussi dire ça. Donc la volonté de nous défaire de tout ce qui nous a fait jusqu'à présent, de façon à nous envoler vers des mondes qui sont les mondes de notre désir, et qui ne sont pas les mondes de la réalité humaine. La volonté de penser que, au fond, rien de ce qui nous attachait auparavant ne nous attache encore.
C'est pas quelque chose d'un peu puéril, tout ça?
Oui, je pense. Et je pense qu'il y a quelque chose d'adolescent, il y a quelque chose de puéril. Parce que finalement, c'est l'enfant qui refuse. L'enfant n'est pas encore attaché à la réalité. C'est l'éducation qui l'attache à la réalité, qui lui dit, tu vois, ton désir existe, mais là... En l'occurrence, tu ne pourras pas dépasser ton désir. Tu ne pourras pas. C'est pas toi qui décides de ce que tu es, pas partout en tout cas. Et ça, c'est infantile en effet. Mais nous vivons dans des sociétés assez infantiles, je trouve, d'une certaine manière.
Alors ce refus des contraintes et cette centralité du désir vu comme tout puissant et capable de recréer à l'infini.
Oui.
De recréer à l'infini le monde. Comment... Je perds le fil. zut, c'était une idée intéressante. C'est pour ça que je veux absolument la dire.
Vous allez la retrouver.
Cette volonté... Oui, le paradoxe de ce désir, j'allais dire ce délire, mais c'en est un, de toute puissance et cette centralité du désir dans la société, aboutit toutefois à un paradoxe, c'est qu'en même temps... On constate que nos sociétés sont essentiellement caractérisées par une forme de dépression collective, voire individuelle, une immense frustration, une insatisfaction qui ne cesse, si on en croit diverses études, à la fois médicales ou sociologiques, d'atteindre des niveaux jamais égalés. Comment expliquer cela ?
Mais je pense que c'est assez cohérent, ça va bien ensemble. Au fond, si vous êtes éduqué dans l'idée... qu'il y a un certain nombre de choses que vous ne pouvez pas avoir, par exemple être immortel. Il y a toutes sortes de choses, d'autres choses qu'on ne peut pas avoir. On va vous accoutumer à la finitude et on va finalement, si l'éducation est bonne, vous apprendre à aimer votre finitude. Ça peut s'appeler la sagesse hein, aussi. C'est pas forcément une éducation religieuse, ça peut être la sagesse. Il y a toute forme de sagesse. Tandis que si on vous éduque en vous disant... vous avez tous les droits, tout vous est permis, vous n'avez qu'à demander, et au fond, il faut que vous demandiez, parce que ce qu'on ne vous donne pas, c'est parce qu'on ne vous aime pas. Ce n'est pas parce qu'on ne peut pas vous le donner, c'est parce qu'on ne vous aime pas, ou parce que vous n'êtes pas assez bien pour... En fait, l'État pourrait tout vous donner, par exemple. Bon, si on vous éduque dans cette idée, eh bien, quand vous n'aurez pas tout, vous serez horriblement frustré, malheureux, insatisfait, furieux. C'est ce qui se passe. Un individu qui n'obtient pas tout ce qu'il veut, bon, il s'imagine que c'est parce qu'il n'appartient pas au CAC 40 qu'il ne l'a pas eu. Alors qu'en fait, les choses sont plus compliquées que ça. Donc une société de frustrés provient directement d'une société qu'on a accoutumée à penser qu'elle pouvait tout. Je crois que c'est normal.
Soit que tout est dû...
Soit que tout est dû, oui, voilà, les deux choses vont ensemble, tout est dû par l'État, parce qu'en France c'est comme ça que ça se passe, ou bien tout est possible.
C'est un peu le versant libéral, si je caricature, de cette idéologie. Alors.
Ça peut aller ensemble, oui, ça peut aller ensemble. Même si le mot libéral est un mot qui a tellement traîné dans la poussière qu'on ne sait plus très bien ce qu'il veut dire, donc il faut l'utiliser avec des précautions. Précautions d'artificier, oui.
Avec son injonction au changement permanent, est-ce que c'est pas un des traits caractéristiques aussi? C'est-à-dire que plus rien ne doit être stable, tout doit toujours être remis en cause, et tout est en devenir dans cette
oui.
société.
Oui, parce que comme on considère qu'il n'y a plus d'anthropologie, tout est lié à notre désir, comme notre désir est forcément changeant. Les choses doivent changer au gré de nos désirs arbitraires, de nos humeurs... voire de nos caprices, parce qu'au fond, c'est ça, un désir arbitraire, c'est un autre caprice. Donc, tout bouge, et il n'y a pas de socle. Hein. Nous sommes déshabitués à l'idée du socle. C'est assez curieux, comme... je pense que c'est pas du tout un lieu de bonheur, tout ça.
Lorsque je vous entends parler, souvent, vous caractérisez donc cette situation par vous devez bouger, vous devez le... c'est une injonction. C'est-à-dire qu'après tout, que les êtres humains aient envie de tendre vers un idéal d'absolu, de progresser, d'être plus performant, voire de s'émanciper, pourquoi pas. Mais il y a peut-être eu un basculement dans le fait qu'on est soumis à cette injonction. Il faut ne pas le faire, ce n'est pas bien. Ça devient de la morale.
Ah oui, oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Mais l'émancipation est un... a toujours existé dans notre continent, mais pas seulement depuis les chrétiens, depuis les grecs. On trouve chez les grecs cette idée d'émancipation, cette idée de progrès chez des gens comme Xénophane qui sont des présocratiques, donc c'est quand même très 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 ancien. Alors évidemment, le judéo-christianisme, je pense qu'il faut mettre ces deux religions ensemble, qui découlent l'une de l'autre, a énormément conceptualisé cette idée d'émancipation, parce que ça, c'est dans nos textes, hein, dans nos textes originels et originaires. Seulement, cette émancipation, parce que finalement, dans cette religion, l'homme n'a pas été créé entièrement, fini par Dieu. Dieu le commence à le créer, il lui dit après, tu te finis toi-même. Enfin, c'est un peu comme ça qu'on peut dire les choses. Seulement, cette émancipation est une promesse, c'est pas un programme, c'est pas quelque chose qui est dicté d'avance et qu'on va réaliser au jour J. Ça se passe pas comme ça. Ça se produira dans l'histoire, mais ça ne sera jamais terminé, au fond. Il n'y a pas un jour glorieux. Le jour glorieux, il est de l'autre côté de l'histoire, pour cette religion. Et à partir du moment où on récupère cette émancipation et on biffe la religion qui la produit, c'est un peu comme si vous aviez une idée... sous les pieds desquels on retire le tabouret, à ce moment-là, elle va devenir tout à fait autre chose. Et elle devient un programme, elle devient des idéologies, elle devient des totalitarismes. Et cette idée, on l'a toujours entre les mains maintenant, et on est toujours persuadé qu'on peut réaliser ça dans l'histoire, et à la limite, tout de suite. Donc c'est l'idée d'émancipation devenue folle qui est le problème, c'est pas l'idée d'émancipation. L'idée d'émancipation, elle est très grande. Enfin, personne ne peut dire que l'abolition de l'esclavage, c'était pas quelque chose d'extraordinaire. Or, ça n'a pas existé dans les autres sociétés. Hein. Dans toutes les sociétés, il y a l'esclavage, mais c'est seulement chez nous qu'on l'abolit. Il faut quand même regarder ça comme ça. Hein. Et quand on l'abolit ailleurs, c'est sous notre pression. Hein. Et c'est pas fait partout encore, hein. Il faut bien le voir. Donc ça peut d'ailleurs réapparaître sous des formes diverses, partout, y compris chez nous. Nous ne sommes pas meilleurs que les autres. Simplement, nous avons cette idée d'émancipation, un peu comme un trésor, je crois, mais justement qu'il ne faudrait pas dénaturer. Et c'est pour ça que j'écris ce livre, parce que je pense que c'est dommage qu'on soit en train de dénaturer cette idée. Elle est belle, elle est forte.
Alors, en début, elle concerne, si je comprends bien, les moyens de la mettre en œuvre sont essentiellement... d'ordre idéologique, culturel, politique. On essaie de corriger, de libérer l'individu, lui donner des armes pour réfléchir par lui-même, pour avancer, se construire. On commence déjà un petit peu à dériver, peut-être en disant se construire, quoique l'éducation permet de se construire. Mais dans un second temps, on passe quand même à un autre stade. C'est-à-dire que dans cette émancipation, c'est la nature elle-même... qui devient contraignante. C'est bien cela que vous expliquez.
Attendez, vous voulez dire qu'il devient contraignante
C'est-à-dire qu'au début, on essaye d'agir sur les sociétés pour permettre l'émancipation, et aujourd'hui, on en viendrait, ce sont les théories, je ne sais pas comment il faut les appeler, post-humaines, transhumaines, qui expliquent que pour obtenir une véritable émancipation de l'humanité, il faut l'aider à sortir... en quelque sorte, de son humanité et de sa nature.
Oui, c'est ça, oui. Au fond, au départ, ce qu'on voudrait faire, c'est faire de la personne humaine une véritable personne, parce que nous avons cette idée de personne depuis le début, nous essayons de la réaliser dans l'histoire. Voilà, je pense que c'est comme ça qu'on pourrait décrire l'émancipation dans une société occidentale. Je cite toujours l'exemple de Comenius qui me paraît très importante au XVIIe siècle, celui qui invente l'éducation, l'éducation telle que nous la connaissons, l'éducation d'initiative, c'est-à-dire qui pour la première fois prend des marques vis-à-vis de l'éducation d'initiation qui est celle de tous les continents, de toutes les cultures. Nous avons toujours une éducation d'initiation. Et ici aussi, sur ce continent, nous l'avons eu. C'est-à-dire que l'enfant doit finalement suivre ce qu'on lui dit, hein, faire ce qu'on lui dit et rester dans la même lignée. Et Comenius vient et dit l'éducation est une éducation d'initiative et il va chercher la Bible, les textes saints pour le prouver. Donc, il dit, si vous voulez, si nous voulons réaliser des personnes, il nous faut les rendre capables d'initiation, de conscience personnelle. Donc ça, c'est vraiment ça qui nous fonde, si vous voulez. Seulement, après, lorsque vous n'êtes pas dans la réalisation de la personne, lorsque vous prenez le champ par rapport à cette fondation, si vous voulez, eh bien, vous pouvez en arriver à dire, eh bien, chaque personne va se créer elle-même sans tenir compte du tout de ce qu'elle est au départ. Et à ce moment-là, on va passer à toutes sortes de choses comme par exemple le transhumanisme.
Il y a cette volonté, semble-t-il, également de passer par-dessus la tête de toutes les intermédiations et d'affirmer sa singularité et simultanément son universalité. Le particulier universel doit être en fusion, en quelque sorte, sans passer par aucune médiation qui nous permet d'accéder à un état de conscience supérieur.
C'est l'individu ou la singularité et l'universel devraient effectivement être en fusion sans qu'on passe par ce qu'on peut appeler les particularités. Au fond, ce que récuse complètement le moment présent, c'est le particulier, à savoir le fait que nous sommes les parties de, non pas du tout avec un grand T, mais de groupes, de groupes particuliers. Nous sommes des parties de groupes particuliers. Par exemple, nous sommes une partie de notre famille, nous sommes une partie de notre université, de notre syndicat, de notre religion, de notre, etc. Et ça, c'est ça qui est, au fond, récusé. Nous ne devrions être que la singularité unique, le nom que je porte, voilà, et puis attaché à l'universel directement, comme quand on dit « je suis uniquement citoyen du monde ». Voilà. Je ne suis plus citoyen de France, de Navarre, de tout ce que vous voudrez, de la ville de Paris, mais je suis citoyen du monde uniquement. C'est-à-dire que je récuse toutes les particularités, toutes les choses dont je pourrais faire partie. Et ça, c'est tout à fait caractéristique de notre époque. Je pense que ça, c'est une récusation qui est fausse. Ça ne peut pas marcher parce que nous ne pouvons pas être directement, un individu dans l'universel. Nous ne pouvons être véritablement un individu ou une singularité, c'est mieux de dire comme ça, que si nous appartenons à des groupes ou à des particularités. C'est-à-dire que je ne peux me façonner que si j'appartiens à une famille, à une université, à une école, à un syndicat, etc. Je ne puis exister que si j'appartiens à ces groupes. C'est fallacieux de penser que je puis n'être ni homme ni femme, ni athée ni catholique, ni de gauche ni de droite, ni rien. C'est fallacieux. Je suis un être d'appartenance multiple.
Vous pensez que c'est la source de la véritable phobie qui se déploie à l'encontre des communautés? Enfin, il suffit qu'on ait une communauté pour qu'on dénonce aussitôt le communautarisme.
Bien entendu.
J'ai l'impression qu'on perd presque la tête en France.
Mais oui, mais surtout en France. Oui, surtout en France, parce que la France est un pays particulièrement attaché à l'universel et qui a tendance à s'imaginer que nous ne pouvons être que universels. On pourrait citer l'exemple du patriotisme. C'est tout à fait intéressant parce que, au fond, la France est le pays soviétique par excellence, complètement ensoviétisé, à beaucoup de points de vue. Et il y a dans l'idéologie communiste un rejet total du patriotisme parce que la patrie, c'est vraiment la particularité, hein, la particularité majuscule, je dirais. Et c'est très intéressant de voir à quel point le patriotisme est complètement honni dans les pays soviétiques. Parce qu'il faut que chaque individu ne soit allié qu'à l'universalité, là en l'occurrence communiste, jusqu'au moment où les nazis entrent à Stalingrad. Et à partir de ce moment-là, eh bien, le vieux patriotisme reprend le dessus. Et au fond, Staline va terminer dans la peau d'un patriote.
Oui, on ressort Alexandre Nevsky.
Voilà. Pourquoi ? Parce que tout simplement, un individu ne va pas se battre pour l'universalité communiste. Il va laisser sa peau pour la patrie. Et au fond, ils s'en rendent compte. Les communistes s'en rendent compte. Et là, ils exhibent l'idée de patrie. Eh bien, c'est exactement ce qui est en train de se passer pour nous, là, depuis quelques années, que nous avons des gens qui balancent des pétards en plein Paris et qui tuent chaque fois quelques centaines de personnes. Eh bien, jusqu'à présent, prenez les cérémonies au cours desquelles le président de la République loue les soldats morts, parce que nous avons toujours des soldats qui meurent sur des terres inconnues. Eh bien, jusqu'à il y a 2 ou 3 ans, le président de la République, dans son discours, disait que ces soldats étaient morts pour les valeurs qui nous sont chères. Ils sont morts pour la liberté, ils sont donc pour l'universalité, si vous voulez, pour des choses universelles, des valeurs universelles. Même si j'aime pas beaucoup le mot valeur, mais maintenant on recommence depuis peu de temps, depuis peut-être 1 ou 2 ans, à dire qu'ils sont morts pour la patrie. C'est-à-dire qu'on est en train de se rendre compte que si on veut laisser sa peau au Bataclan pour sauver des gens, eh bien, ça ne sera pas pour l'universel, ça sera pour la France, ça sera pour peut-être pour un mode de vie, mais ça sera surtout pour des particularités, parce qu'au fond, c'est humain.
Dans ce cas-là, c'est plutôt rassurant. Ça veut dire que ce projet fou ne peut pas arriver à ses fins.
Non, mais bien sûr, peut pas arriver à ses fins. Mais ce qu'il faudrait éviter, à mon avis, c'est qu'il casse trop de choses en attendant. Parce que les projets stupides et fous n'arrivent pas à leur fin. Mais ils ont le temps de beaucoup casser, quand même.
Donc, oui. Qu'est-ce qui est cassé ?
Je pense, par exemple, que l'idéologie gender, qui est une véritable doctrine et idéologie, casse beaucoup de choses quand même. Quand vous voyez, il y a peu de temps, on a...
Il faut peut-être la définir pour ceux de nos auditeurs.
Ce que j'appelle l'idéologie de gender, c'est le fait que les distinctions hommes-femmes ne sont que des distinctions artificielles, complètement culturelles. Par conséquent, il suffit de changer de culture pour changer de sexe ou pour qu'il n'y en ait plus. Il y a peu de temps, nous avons perdu un grand chanteur, mais il y a peu de temps, nous avons perdu un autre grand chanteur qui était David Bowie. Eh bien, j'ai écouté attentivement, comme je le fais toujours, ce qu'on dit sur les radios, les télévisions à propos de la mort de ce chanteur. Et au fond, ce qui ressortait, comme vous le savez, c'était un garçon qui changeait de sexe un peu en permanence.
Un peu androgyne.
Voilà, qui était un peu androgyne. Et le commentaire qu'on entendait le plus souvent, c'est « il a osé être lui-même ». Autrement dit, être soi-même, ça signifie changer tout le temps au fur et à mesure de son désir. Je pense que on va casser beaucoup de choses avec ça, parce qu'il y a énormément de jeunes qui vont finalement s'identifier à ça, et ça n'arrangera pas les choses, parce que ça ne leur rendra pas service, parce qu'on sait très bien comment ça se termine pas bien. Donc, je pense que, bien sûr, de toute façon, ça n'ira pas loin, mais il faut peut-être éviter que ça casse beaucoup en attendant.
Alors, face à... cette, je ne sais pas comment le définir, ce discours effectivement présent dans le climat, je ne sais pas s'il est dominant, mais il est présent, donc c'est un peu comme un climat. Y a-t-il, comme dans d'autres sociétés avec des projets totalitaires, des dissidents, des opposants, si oui, lesquels ? Commençons par une tentative où vous évoquez souvent, notamment à propos du transhumanisme bien sûr, les écologistes, les tenants d'un retour à la nature comme étant quelque chose de donné, qu'il faut respecter, ce refus de tentation démiurgique qui en quelque sorte sous-tend tout cela. Voilà.
Je veux dire, je crois que d'abord, il y a beaucoup d'opposants. Il y a beaucoup plus d'opposants, enfin, c'est même un euphémisme, qu'il n'y en avait il y a 20 ou 30 ans. Il y a 20 ou 30 ans, on était sous la domination des staliniens. C'est-à-dire que quand on disait qu'on était anti-stalinien, on nous disait qu'on était nazi. c'est quand même un peu gros. Ça a quand même complètement disparu. Hein, complètement disparu. La poignée de gens qui étaient contre, je ne dirais pas la gauche, mais les gauches extrêmes étaient extrêmement rares. Hein.
L'université, en tout cas.
Oui, dans l'université, en tout cas. Mais il y avait... Le peuple était à droite, hein, parce que les gens étaient capables, même à une époque, d'envoyer Pompidou et Poher au premier tour. C'est quand même assez incroyable. Mais ceux qui s'exprimaient étaient... finalement, tous dans la même tonalité. Et aujourd'hui, c'est complètement différent. Les choses ont énormément changé. C'est pourquoi je crois qu'il y a énormément d'opposants à ce genre de courant que je dénonce. Alors, il y a bien sûr les écologistes, qui sont un courant important et très, très, très mouvant, avec beaucoup de mouvances différentes.
Je pense que c'est pas écologiste au sens parti politique du terme.
Hein, oui, voilà. Non, il ne s'agit pas du parti politique, il s'agit des courants, des mouvances.
Oui, ou de sensibilité.
De sensibilité, voilà. Mais qui peuvent être aussi des fous furieux, hein, qui peuvent d'ailleurs se comporter... J'ai eu des discussions avec certains journalistes ces temps-ci, qui peuvent se comporter absolument comme des saliniens, c'est-à-dire des gens positivement odieux, qui n'écoutent jamais les autres, qui ont toujours raison, même s'ils ne savent pas grand-chose, d'ailleurs. Enfin, donc, il y a des courants du côté des écologistes qui sont vraiment des idéologues très, très prononcés. Mais il y a aussi, parmi eux, beaucoup de courants qui sont des gens raisonnables, voire qui cherchent la sagesse, parfois. Et... qui finalement voudrait légitimer une finitude. Hein,
Qu'il y a des limites.
La conscience qu'il y a des limites, voilà, recherche des limites. Et puis, il y a aussi un certain nombre de jeunes chrétiens qui sont apparemment très nombreux, derrière la Manif pour tous, plus ou moins. Hein. Enfin, disons qu'ils sont apparus à cette occasion. Hein. Et qui défendent qui sont des opposants, puisque vous me parlez d'opposants.
Alors, on a l'impression que, autant la matrice de cette version un peu totalitaire, de ce projet totalitaire dans la modernité, ou la postmodernité, ou la modernité tardive, je ne sais pas comment il faut l'appeler, est assez cohérente et avance comme un rouleau compresseur, tandis qu'en face, les opposants, les dissidents, avance plutôt en ordre dispersé, avec d'un côté certains qui vont rappeler qu'il doit y avoir des limites dans l'exploitation de la nature, qu'il faut revenir à davantage de sobriété, ce qui est aussi une façon de dire que le monde, que l'homme n'est pas tout puissant,
bien sûr,
doit s'insérer
bien sûr
dans la création, que les choses lui sont données et qu'il doit en prendre soin,
ouais,
comme un jardinier, une allégorie, ouais, que vous reprenez souvent et pas comme un démiurge. De l'autre côté, on peut avoir effectivement certains courants de la Manif pour tous qui vont insister sur le fait qu'il y a quand même une anthropologie. Mais tout ça n'est pas très articulé. On a l'impression que c'est en ordre dispersé, que chacun se choisit ses sujets en fonction de sa sensibilité, mais n'offre pas une alternative complète. Est-ce que, dans votre ouvrage, il y avait la volonté de redonner la cohérence à tout cela?
Oh non, non. Je crois... Vous savez, je crois que les courants... post-humaniste, transhumaniste dont je parle et que je dénonce là, agissent aussi en ordre dispersé. Ils ne sont pas tous d'accord entre eux. Et au fond, il n'y a pas un seul courant dominant qui intègre les autres, non.
Mais ils convergent.
Mais bon, je ne sais même pas s'ils convergent davantage. Non, moi je crois qu'il faut laisser tout le monde s'exprimer, au contraire, et que c'est plutôt bien que ça parte dans tous les sens, parce que chacun est libre d'ajouter une pierre, et moi je trouve pas ça gênant. Ça me plaît plutôt. Je suis un peu anarchiste de tempérament, il faut dire.
Dans pour revenir sur ces genres de sensibilité écologiste, on sent qu'à travers cet ouvrage, mais aussi l'ensemble de votre œuvre, il y a cette volonté de préserver la singularité de ce qu'est l'homme, l'être humain. Est-ce que, dans ce cadre-là, certains tenants d'une, je sais pas comment on l'appelait, une idéologie écologiste, ne sont pas également un terrible danger? On a un peu le sentiment, c'était Andrei Makin qui, dans ce studio même, soulignait qu'on était face à quand même une difficulté, c'est que, d'un côté, on avait l'homme qui était... étendu et donc dissous jusqu'aujourd'hui dans la machine, ce qui est l'objet de certains délires transhumanistes, c'est-à-dire que l'être humain, il y aura un continuum entre l'être humain et la machine d'un côté, et de l'autre, un continuum entre, entre l'être humain et l'ensemble du vivant, et bien entendu les animaux. On le voit avec tous les courants qui remettent en cause non seulement la classification des espèces, mais même la frontière entre l'homme et les animaux.
Oui, mais il y a une
volonté. Que reste-t-il de l'humanisme?
Ah, mais bien sûr, bien sûr, mais il y a une volonté de dilution, vous avez raison, des deux côtés. Du côté de la machine, effectivement, on le voit dans l'université de la singularité. Quelqu'un écrivait, c'était dans un livre de Michel Beignet, j'ai lu ça, qui citait quelqu'un dont j'ai oublié le nom. Il disait, oh, après tout, les locomotives ont bien un peu une conscience. Donc, si vous voulez. Et puis, d'un autre côté, volonté de dilution avec le monde animal. Il est vrai d'ailleurs, je crois, que les sociétés qui nous précèdent ont trop exagéré le dualisme entre l'homme et l'animal. La différence n'est pas si radicale que ça. Hein. Et ça, il y a un certain nombre de travaux qui le montrent maintenant. Et effectivement, entre l'homme et l'animal, il y a un continuum quand même. Cela dit, il y a plusieurs courants assez différents qui sont en train d'essayer de sortir de l'humanisme en tant que royauté de l'homme. Ça, c'est tout à fait clair. Mais ça a commencé déjà il y a peut-être une cinquantaine d'années avec tous les courants de la déconstruction. C'est Foucault, c'est Blanchot, c'est toute la thèse sur le neutre, l'idéologie du neutre. Vous voyez, donc, c'est une volonté de dilution, ça. Donc, il y a une volonté de casser l'humanisme. J'ai cité récemment, je crois, dans un article, une phrase de Tournier, c'est tout à fait intéressant. Ce Tournier, donc, qui vient de mourir, grand écrivain, qui assiste à la conférence de Jean-Paul Sartre, l'existentialisme est-il un humanisme, et qui sort dégoûté en disant oh, je ne comprends pas que mon maître, parce qu'il considérait Sartre comme son maître, est sorti de son chapeau cette espèce de truc complètement éculé qu'on appelle l'humanisme. Enfin, pourquoi est-ce qu'il a besoin d'un humanisme? On n'a plus besoin, maintenant c'est fini. Donc si vous voulez, et ça c'est un exemple parmi d'autres, mais il y a une volonté de se débarrasser de l'humanisme en tant que royauté de l'homme, que l'homme ne soit plus rien d'autre que peut-être une machine, peut-être un animal, simplement, qu'il soit rien d'autre que de la viande en fait.
Face à ce discours très prégnant, parfois séduisant aussi, il faut le reconnaître. Hein. Ces gens peuvent être
bien sûr.
Extrêmement séduisants. Comment se réarmer? On évoquait, j'ai utilisé des termes très politiques, dissidents, opposants, ou des catégories comme les écologistes, même si je ne le pensais pas comme parti. Est-ce que finalement, face à tout cela, le salut et la façon de s'en sortir, de résister, n'est pas plutôt individuel? Est-ce qu'il ne s'agit pas simplement de se comporter d'une certaine façon, soi-même, déjà, pour commencer?
Ah oui, mais là, vous, effectivement, je suis tout à fait d'accord avec vous. Je pense que la seule chose qui puisse marquer, c'est le témoignage. Je veux dire, c'est non pas le discours, mais l'être. Alors évidemment, le discours a de l'importance aussi, parce que... Mais... Si derrière un discours, il n'y a pas un être, il n'y a pas une manière de se comporter, ça ne sert rigoureusement à rien. Ça, c'est une chose qu'on n'avait pas comprise encore il y a peu de temps. On s'imaginait qu'il suffisait de parler et puis après de faire tout ce qu'on voulait. N'importe quoi, ça ne marche plus du tout. Donc effectivement, le témoignage a énormément d'importance. Mais cela dit, il faut quand même produire des discours sensés, argumentés, pour dire ce que l'on pense. Et il y a quand même beaucoup de gens qui le font, et puis beaucoup de gens des jeunes générations. Donc ça, c'est quand même très rassurant. Hein. C'est pour ça que moi, je ne pense pas qu'il y ait lieu de se désespérer. Il faut avancer tranquillement.
Merci beaucoup, Chantal Delsol.
Je vous en prie.
Puisque vous avez parlé
de
produire un discours, je renvoie nos auditeurs qui souhaiteraient travailler sur ces questions et ensuite éventuellement sur eux-mêmes pour apprendre leur finitude et renouer avec notre antique sagesse, de se plonger bien entendu vers votre ouvrage, titré donc « La haine du monde, totalitarisme et postmodernité ». C'est aux éditions du CERF, ils en seront certainement remués, ça leur ouvrira des perspectives, car on peut à la fois vivre dans la finitude et avoir toujours de nouvelles perspectives. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, merci à vous.